Nous sommes le mercredi 30 décembre, il est 7h, bon réveil à tous. Vous écoutez France Inter, soyez les bienvenus. Et 7h, c'est l'heure du journal d'Hélène Philly. Bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un couvre-feu avancé à 18h dans une vingtaine de départements. Nouvelle carte de France à partir de samedi face à des contaminations qui inquiètent. Le gouvernement écarte pour l'instant tout reconfinement local, mais la réouverture des restaurants et des lieux culturels s'éloigne. Et nous en parlerons également à 7h50 avec notre invité Christian Estrosi, le maire de Nice qui doit faire face dans sa ville à une forte reprise de l'épidémie de coronavirus. Les autres titres, Hélène.
La campagne de vaccination est-elle trop lente? De plus en plus de médecins s'interrogent et interpellent le gouvernement. Scandale en Tunisie après la découverte de dizaines de conteneurs remplis de déchets en provenance d'Italie. Et pour le réveillon, c'est Jean Dujardin qui apporte le dessert. L'acteur et de nombreuses personnalités participent à l'opération 1000 gâteaux pour Emmaüs, distribuée demain aux plus démunis.
Et puis à 8h20, on va parler de demain, on va parler de notre avenir, on va parler de notre futur. Dans le grand entretien de la matinale, l'essayiste et prospectiviste Antoine Bueno sera dans le studio de France Inter. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
La stratégie des petits pas face aux mauvais chiffres de l'épidémie, alors que certains élus réclament un reconfinement local, ce sera donc plutôt un couvre-feu dès 18h à partir de samedi dans une vingtaine de départements. L'Allier, l'Ardèche, les Alpes-Maritimes et la majorité des départements des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Le gouvernement cherche encore et toujours le bon équilibre, Maxence Lambrec.
À chaque jour suffit sa peine. Pas question d'aller trop vite, trop fort, de céder à la pression d'élus locaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, pense avoir trouvé hier soir sur France 2 le juste milieu.
Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement. Nous ne voulons pas confiner à ce stade. En revanche, nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20h, démarrera à 18h dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avérera nécessaire.
Nouvelle année, nouvelle carte de France. Donc, vendredi, le gouvernement présentera les départements concernés le lendemain par ce couvre-feu anticipé dont l'efficacité commence déjà à faire débat. Les clauses de revoyure pour les éventuelles réouvertures des lieux culturels et sportifs le 7 janvier. Pour les bars, restaurants le 20 janvier sont officiellement maintenus, mais le ministre prépare déjà les esprits, c'est mal parti.
De toute évidence, on ne pourra pas lever la totalité des contraintes. Il y aura peut-être des aménagements, je pense notamment à un jour travailler en présentiel pour ceux qui le souhaitent, ou la réouverture de l'accueil d'étudiants par petits groupes.
Et d'ailleurs, la rentrée des classes interviendra comme prévu partout en France lundi prochain, sans nouveau protocole. La vie doit continuer, insistera Emmanuel Macron demain soir dans ses vœux aux Français.
Des vœux et un réveillon tout de même très particulier cette année. Le ministre de l'Intérieur a précisé ses consignes au préfet pour éviter tout rassemblement. Contrôle renforcé, 100 000 policiers et gendarmes vont quadriller le terrain. Aucune indulgence pour ceux qui braveraient le couvre-feu. Gérald Darmanin souhaite même des poursuites pénales pour les organisateurs de fêtes illégales. Les préfets pourront aussi limiter, voire interrompre les transports en commun dès 20h demain soir.
Le ministre de la Santé l'a aussi dit hier, il assume le calendrier de vaccination.
Là encore, à tout petit pas, une centaine de piqûres seulement depuis dimanche, alors que le conseil scientifique met en garde contre une reprise incontrôlée de l'épidémie. On n'y arrivera pas en brusquant les choses, justifie Olivier Véran. Confiance, transparence pour lutter contre la défiance, ce sont les maîtres mots. Mais le rythme est tout de même bien lent pour beaucoup de médecins, Daniel Messager.
La France dispose de 60 000 doses actuellement, 500 000 annoncées rapidement, mais pour le moment on ne compte qu'une centaine de personnes vaccinées. Alors que l'inquiétude est grande sur le nombre de contaminations après les fêtes, pourquoi la vaccination démarre-t-elle si lentement? C'est désolant, remarque un infectiologue. Pourquoi ne pas élargir tout de suite aux soignants, ajoute un urgentiste. Stéphane Gaudry est réanimateur à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
C'est très lent pour l'instant. Alors on a bien compris qu'il y avait des objectifs de rassurer la population, mais je pense qu'il faut mettre ça en parallèle du nombre de vies sauvées grâce à ce vaccin. C'est très bien la communication, mais il faut rester sur des bases scientifiques. Ce vaccin est extrêmement efficace, extrêmement bien toléré. Donc tout le temps que nous allons perdre en communication pour rassurer tout le monde, ce délai se paye en vie humaine. Il y aura des gens qui vont malheureusement décéder parce qu'ils n'ont pas eu accès au vaccin suffisamment rapidement.
Avec davantage de lieux disponibles, estime encore le docteur Gaudry.
Il faut également avoir des centres de vaccination. Si vous ouvrez un gymnase avec la possibilité de se faire vacciner, vacciner contre le Covid-19, vous aurez énormément de monde parce que les gens, ils n'ont pas envie d'attraper cette maladie-là. Ils ont envie de revivre normalement.
Pour le moment, pas question toutefois de modifier la stratégie vaccinale. Le gouvernement assume son choix pour lutter contre le scepticisme de la population. Il faut accepter que ça prenne du temps, assure-t-on au ministère de la Santé.
Précision d'Olivier Véran. Hier, les professionnels de santé de plus de 50 ans pourront se faire vacciner d'ici la fin du mois de janvier. L'objectif reste le même, 1,5 million de personnes vaccinées en février. Et on poursuit à présent notre série sur ces politiques qui ont renfilé la blouse au pic de l'épidémie. Jean-Jacques Gauthier, député des Vosges et médecin biologiste, a été lui en première ligne sur les tests, omniprésent dans son laboratoire d'analyse de Vittel au printemps dernier, Marc Potvin l'a rencontré.
Jean-Jacques Gauthier a beau être député, il n'a jamais cessé de travailler dans son laboratoire d'analyse.
En fin de semaine, souvent les vendredis, samedis.
Mais la crise sanitaire a bousculé son programme.
Entre mars et juin, j'ai consacré effectivement le maximum de mon temps possible sur le labo.
Tout a commencé sur un parking.
On testait les gens dans leur voiture pour leur éviter de rentrer au labo et de contaminer d'autres patients, voire le personnel soignant. Ensuite, comme les prélèvements ont augmenté en quantité, on a vraiment créé des salles de prélèvement pour les diagnostics Covid-19.
Le médecin biologiste estime avoir dépisté plusieurs centaines de personnes. Lui-même, d'ailleurs, a eu le Covid-19 début mars.
J'ai quasiment fait le tour de la question, moi, sur le coronavirus.
Aussi parce qu'il a participé aux auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée sur la gestion de l'épidémie.
Je passe la parole à Monsieur Gauthier pour les Républicains.
Professeur Maury, vous avez dit tout à l'heure, des gens sont morts par manque de respirateurs.
Pilotée par les Républicains, cette commission a pointé dans son rapport une série de manquements des pouvoirs publics.
En médecine, comme en politique, le temps perdu ne se rattrape pas. La préparation et la réactivité, c'est la clé du succès.
Jean-Jacques Gauthier préconise ainsi un dépistage massif de la population après les fêtes.
Jean-Jacques Gauthier, troisième portrait de notre série cette semaine, tous les jours à 7h, et à retrouver sur franceinter.fr.
Une question à présent, pourquoi les poubelles du sud de l'Italie se retrouvent-elles en Tunisie ?
Arrivées en bateau, près de 300 conteneurs de déchets ménagers ont été saisis par les douanes ces derniers mois. C'est une grosse affaire en Tunisie, car on soupçonne un vaste réseau de corruption et de possibles le lien avec la mafia napolitaine. 23 personnes ont été arrêtées lundi. Le ministre de l'Environnement tunisien limogé. Correspondance à Tunis, signée Maureen Mercier.
280 containers qui déclenchent la colère des Tunisiens. À l'intérieur, des déchets ménagers, des poubelles italiennes, parmi lesquelles des masques anti-Covid. L'activiste écologique Hamdi Houssem est atterré.
C'est comme lâcher une bombe atomique ou quelque chose pour nuire à l'environnement et la santé du peuple tunisien.
Au total, la justice a interpellé 12 personnes. Le ministre de l'Environnement a été limogé. Mais pour la société civile, il ne faut pas se contenter de faire tomber des têtes. Il faut changer tout le système. Parce que le risque, selon Inès Labias du FTDES, l'une des ONG les plus actives en Tunisie, le risque est que ces déchets soient enterrés en Tunisie dans le plus grand secret.
C'est des mafias qui tiennent ce secteur. On ne peut pas savoir où ces déchets vont aller. Ils peuvent aller dans la nature, dans les forêts, dans les ouèdes. Partout, il y a des malades de cancer, il y a des piqûres d'insectes dangereux, il y a même des cas de décès, il y a de la stérilité chez les femmes.
Son message à l'Europe, plus spécifiquement à l'Italie, est clair.
Arrêtez de traiter les pays du Sud comme une poubelle. Il faut arrêter de nous envoyer vos merdes, vos ordures. Ça s'appelle le respect.
La société civile assure qu'elle ne lâchera pas le dossier jusqu'à ce que l'Italie récupère enfin ses déchets. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
À l'étranger encore, les sauveteurs cherchent toujours des survivants après le séisme qui a frappé le centre de la Croatie hier et qui a coûté la vie à 7 personnes jusqu'ici. L'heure du paraf pour l'accord post-Brexit signé ce matin par les dirigeants de l'Union européenne. Cet accord changera les règles du commerce entre le Royaume-Uni et l'Union en matière de droits de douane, on l'a dit, de pêche. Les surcoûts seront possibles sur les forfaits de téléphone également, mais les abonnés français ne devraient pas en faire les frais. Orange, Bouygues et Free ne toucheront pas à leurs tarifs selon le Figaro ce matin. Des opérateurs télécoms par ailleurs bien occupés par la commercialisation des forfaits 5G. Les associations de consommateurs ont d'ailleurs lancé les hostilités, Guillaume Fariol.
Dernière péripétie en date, Orange et SFR ont été assignés en justice par la CLCV pour défaut d'information. Explication d'Olivier Guéraud, juriste de l'association de consommateurs.
La 5G ne couvrira 100% du territoire qu'en 2030. Avant de pouvoir souscrire un forfait 5G, il faut une information sur la disponibilité en vous indiquant tous les endroits où elle est présente.
vous avez probablement envie qu'elle soit disponible à l'endroit où vous habitez. Et aujourd'hui, toute cette information-là nous paraît très insatisfaisante.
Un nouveau front pour les entreprises des télécoms. Il y a déjà eu les recours d'associations environnementales devant le Conseil d'État. La fronde aussi de certaines villes. Moratoire sur la 5G adoptée à Lille et Grenoble. Comment répondre aux critiques? Il faut expliquer, assure Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms.
La Fédération française des télécoms n'a de cesse d'aller partout où on l'invite pour venir expliquer que non, la 5G ne pose pas de problème de santé, que la 5G peut être un bienfait pour l'environnement si on travaille tous ensemble. Bref, question légitime, oui. Débat légitime, oui. Allons-y, débattons, discutons.
On ne connaît pas encore le nombre de souscriptions. Pas de raz-de-marée prévu selon les opérateurs qui estiment que la 5G s'installera progressivement.
Guillaume Fariol, la situation toujours bloquée à Marseille, 13e jour de grève d'une partie des éboueurs. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de réquisition, mais les grévistes n'ont pas bougé, estimant cette procédure illégale.
Bon, et on apporte quoi pour le dessert, Hélène?
Ah bah c'est vrai qu'on se prépare pour le repas de réveillon
quand
demain.
Même.
Et pour certains, ce repas, il sera solidaire. À défaut d'une grande bamboche entre voisins, des habitants du 14e arrondissement de Paris promettent de faire un millier de gâteaux pour les personnes hébergées par Emmaüs Solidarité, soutenues par des personnalités de Jean Dujardin à Tony Estanguet, Catherine Fro. C'est le reportage de Mathilde Dehimi.
Le collectif d'habitants, les hypervoisins, a l'habitude d'organiser un grand banquet dans la rue, notamment avec Emmaüs Solidarité, mais pas cette année.
Il y a beaucoup de frustration de ne pas être dans le réel, de ne pas se toucher, de ne pas partager réellement. On n'a pas pu le faire, donc on s'est dit qu'il fallait absolument trouver un prolongement à ce grand banquet qui donnait tant de joie à tout le monde.
L'idée a donc germé dans la tête de Patrick Bernard et ses voisins de dresser une table virtuelle où personnalités et anonymes annoncent quels gâteaux ils vont rapporter jeudi matin devant la mairie.
On va collecter les 1000 gâteaux, on va les démouler pour ceux qui viendront avec leur moule, on va les emballer, on va les mettre dans des boîtes à gâteaux et on va les charger dans des véhicules, des triporteurs, des voitures, dans les centres de distribution avant la fin de l'après-midi.
Une cagnotte est aussi en ligne pour ceux qui à distance voudraient aider et commander des tartes aux pommes au boulanger du coin. Une solidarité pas si virtuelle. Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
C'est le moyen de changer de l'ordinaire et c'est un formidable témoignage de montrer que les Parisiens pensent aux personnes qui sont dans des graves difficultés. 1000, ça va faire des gâteaux de 6 parts par personne, donc ça fait 6000 personnes hébergées. Voilà, apporter un peu de chaleur pour le soir du 31 décembre.
150 gâteaux sont déjà annoncés et mieux vaut éviter les pièces montées, trop compliquées à transporter.
Bah Jean Dujardin va apporter une tarte aux myrtilles, ce sera une tatin pour mieux sec et un 4 quarts pour le handballeur Nicolas Karabatic. L'emballe, tiens. Et la Ligue des Champions, c'est le dernier mot. Le PSG se console avec la 3e place. Vainqueur hier soir des Hongrois de Vespren. Ce sont les Allemands de Kiel qui décrochent le titre pour la 4e fois en battant Barcelone.
Merci Hélène Fili. Dans 3 minutes, qui pour succéder à Angela Merkel? Le Zoom nous emmène ce matin à Berlin.